en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous fêtons cette année le centenaire de la naissance du grand anthropologue et philosophe français Claude Lévi-Strauss, élu à l'Académie française en 1973. C'est pour lui rendre hommage que Canal Académie a décidé de lui dédier une série d'émissions et nous démarrons par une spéciale aujourd'hui au Collège de France en compagnie de Monsieur Descola qui dirige aujourd'hui le laboratoire d'anthropologie sociale fondé par le grand maître. Monsieur Descola, bonjour et merci de nous recevoir. Pourquoi ne pas démarrer par les travaux et les avancées du laboratoire ?
Alors, le laboratoire d'anthropologie sociale, en effet, j'ai le privilège de le diriger maintenant. Et après que Lévi-Strauss l'ait dirigé pendant longtemps, il l'a fondé en 1960, c'est-à-dire à une époque où l'expression « laboratoire d'anthropologie sociale » était très bizarre. Bizarre parce que l'idée qu'on puisse faire des sciences sociales dans un laboratoire, déjà, était peu commun à l'époque. Ce qu'on appelait plutôt en France à l'époque les ethnologues étaient dispersés. D'abord, ils étaient très peu nombreux. Ils étaient dispersés dans différentes institutions, comme ils le sont toujours maintenant, et ils travaillaient de façon plutôt solitaire. Alors, l'idée d'un laboratoire, elle vient du fait que Lévi-Strauss était très attaché au travail de la, non pas de la comparaison au sens général du terme, mais au fait de faire jouer des cas ethnographiques les uns avec les autres, de façon à mieux comprendre des phénomènes beaucoup plus généraux et à comprendre comment les différences d'expression de ces phénomènes pouvaient être constituées en système. Par exemple, alors il est évidemment le pionnier en France des études de ce type-là, dans le domaine des études de parenté. Donc si vous réunissez dans un même endroit des gens qui sont des spécialistes de plusieurs régions du monde, de plusieurs aires culturelles à l'intérieur de continents, et qui connaissent bien la littérature ethnographique, d'abord pour avoir été eux-mêmes des ethnologues, donc pour avoir fait des enquêtes de terrain, mais aussi pour être familiers de la littérature publiée sur l'Afrique de l'Ouest, sur telle région de l'Amérique du Sud, sur telle région de l'Asie du Sud-Est, etc. Ces gens sont dans une situation exceptionnelle pour, en combinant leurs compétences, réfléchir sur la manière dont des systèmes de parenté vont s'exprimer, vont avoir prendre des formes différentes à tel et tel endroit. Et c'est l'idée de laboratoire, c'était ça. C'était l'idée de pouvoir confronter en permanence des points de vue de gens qui avaient des compétences sur des aires culturelles en particulier et qui pouvaient, en discutant, monter à un niveau plus élevé de généralité. Laboratoire aussi parce que Lévi-Strauss a été un pionnier dans l'utilisation de certains moyens de travail pour l'ethnologie, notamment des moyens documentaires. Alors nous avons créé il a été à l'origine de la bibliothèque du laboratoire d'anthropologie sociale, qui maintenant est une des plus importantes en France. Et il a été aussi à l'origine de l'implantation en France d'un fichier qu'on appelle le Human Real Relations Files, qui est un fichier de données sur des sociétés un peu partout autour du monde et qui permet, avec un système de fiches assez complexe, de faire des croisements et, par exemple, de tout savoir sur prenez l'exemple de la parenté, sur un certain système de filiation, sur un certain système de mariage, mais aussi sur une forme particulière de dévolution des biens, etc. Donc c'est un outil documentaire très utile, qui a été dont l'origine vient de l'université de Yale aux États-Unis. Il y en avait pendant très longtemps très peu d'exemplaires dans le monde. Il y en avait en Europe. Il est ici au laboratoire d'anthropologie sociale. Donc c'est ça l'idée de laboratoire. Hein. C'est l'idée d'un travail en commun à partir de matériaux sur lesquels des collègues ont des compétences. Alors pourquoi anthropologie sociale ? Ça aussi c'était une notion bizarre en France à l'époque. Je l'ai dit tout à l'heure, on parlait surtout d'ethnologie à l'époque, c'est-à-dire les gens qui partaient sur le terrain, il n'y en avait pas énormément, puisque là, peut-être faut-il faire un petit retour en arrière pour vos auditeurs. Pendant longtemps, la manière de mener des enquêtes ethnographiques dans des populations non modernes, disons, un peu partout autour du monde, a été de mener des expéditions à la manière des grandes expéditions qu'on a commencé à entreprendre à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des expéditions naturalistes et qui sont devenues par la suite des expéditions naturalistes et ethnographiques. Donc on recueillait des institutions comme on recueillait des objets pour les musées, à peu près de la même façon. Et cette façon de procéder s'est prolongée pendant très longtemps en France, bien après qu'elle se soit interrompue dans un autre grand pays de l'ethnologie en Europe, qui est le Royaume-Uni. En effet, à partir de la Première Guerre mondiale et sous l'influence en particulier d'un grand ethnologue qui était Bronislaw Malinowski, les Anglais ont pris l'habitude de s'installer quelque part pendant longtemps, dans un même endroit, d'y rester, d'apprendre la langue et de pratiquer ce qu'on appelle maintenant l'observation participante. C'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque, bizarrement. Maintenant, c'est la norme. Alors qu'en France, mais aussi dans d'autres pays, en Russie par exemple, et même en Allemagne, on a pendant longtemps continué le système des expéditions. Alors, entre les deux guerres, par exemple, pour l'essentiel, ce que faisaient les ethnologues français, c'était encore des expéditions de ce type-là. Et ça n'est qu'après la guerre en France, la Deuxième Guerre, que l'on a commencé à pratiquer des séjours ethnographiques à la manière de Malinowski, c'est-à-dire en restant longtemps au même endroit. À vrai dire, Lévi-Strauss lui-même, lorsqu'il est allé sur le terrain au Brésil, a mené plutôt des expéditions. Hein. Il les raconte d'ailleurs de façon merveilleusement imagée dans Triste Tropique, hein. ces grandes caravanes vers l'intérieur du Brésil, où il était obligé d'avoir des camions, des caravanes de bœufs pour porter le fourrage des mulets, enfin, c'est très compliqué à organiser. Et il a été dans différents endroits comme ça. Il a séjourné parmi les Boros, il a séjourné parmi les Nambikwara, parmi les Tupimondés, etc. Donc ça, c'était véritablement la manière dont on se représentait l'enquête ethnographique en France jusque un peu après la guerre. Mais Lévi-Strauss, comme vous le savez, il a passé une partie de la guerre, il a réussi à s'enfuir en 40, si mes souvenirs sont bons, et il a passé une partie de la guerre aux États-Unis. Et là, il a été en contact direct, ce qui était peu commun à l'époque, avec cette autre grande tradition d'anthropologie mondiale. Il y en a trois, qui sont la tradition anglaise, la tradition française, la tradition américaine, enfin nord-américaine, tradition allemande ayant connu des vicissitudes sur lesquelles on pourrait revenir éventuellement. Et aux États-Unis, il a donc fait la connaissance des grands anthropologues américains et d'un état de la discipline qui était peu connu en France. Et c'est là qu'ayant, s'étant familiarisé, ayant fréquenté les grandes figures de l'anthropologie américaine, lorsqu'il est revenu en France après la guerre, il est revenu avec une conception qui était quand même assez différente de celle qui avait cours parmi ses collègues ou ses proto-collègues, pourrait-on dire, parce qu'il y en avait très peu des ethnologues en France, et qu'il a imposé cette idée d'anthropologie sociale, c'est-à-dire l'idée qu'au-delà des enquêtes ethnographiques que l'on mène pour connaître telle ou telle société, finalement, il faut réactiver ce projet qu'avait l'anthropologie victorienne, l'anthropologie à la fin du XIXe siècle, mais qui avait été un peu abandonnée, en particulier en France, d'essayer de comprendre des grands principes, des grandes règles de la vie sociale, de la vie commune des humains. Et donc il s'agissait de faire autre chose que d'accumuler des informations. Donc cette idée de laboratoire d'un côté, d'anthropologie sociale, c'était vraiment ça. C'était de réunir des gens qui pouvaient, en combinant leurs compétences, produire des travaux théoriques sur des règles communes de la vie sociale, leurs similitudes, mais aussi et peut-être surtout leurs différences.
Aujourd'hui, on a envie de savoir où en sont les travaux en rapport avec notre temps, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les avancées. Je crois qu'à l'époque, de toute façon, c'était évident, vous écriviez tout à la main, l'ordinateur commençait un petit peu à apparaître. Bon, mais j'imagine que toutes ces fiches cartonnées, quelles sont-elles devenues ?
Les fiches sont toujours là parce qu'elles sont utiles. Cela dit, le laboratoire a été un pionnier dans l'utilisation de l'informatique, mais pas de l'informatique au sens ancillaire ou un peu que vous évoquez là, c'est-à-dire comme moyen de transcrire de façon alphanumérique des informations, mais dans la modélisation des données. Hein. Françoise Héritier, qui a était professeur au Collège de France après le départ à la retraite de Claude Lévi-Strauss, qui a dirigé ce laboratoire pendant une douzaine d'années aussi, a été une pionnière en France et dans le monde de l'utilisation de l'informatique pour modéliser des systèmes de parenté dits semi-complexes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, on rentre dans des détails assez techniques, mais ce sont des systèmes de parenté dans lesquels il n'y a que des interdictions. Et il s'agissait, avec l'informatique, avec les moyens informatiques dont on disposait à l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant entre une vingtaine d'années, d'essayer de voir s'il y avait des régularités dans les choix qui étaient opérés des conjoints uniquement sur la base d'interdiction. Et elle a obtenu des résultats tout à fait passionnants, absolument pionniers. Donc vous voyez, ça fait très longtemps qu'on se sert dans ce laboratoire d'outils de ce type-là. Des jeunes collègues qui, toujours dans le domaine des études de parenté, ont créé des logiciels très nouveaux sur la modélisation des systèmes de parenté. Donc ça, de ce point de vue-là, on a depuis longtemps fait le choix d'utiliser ces outils. Mais je veux dire que du point de vue des objets aussi que l'on étudie au laboratoire, on s'intéresse de façon très décidée au monde tout à fait contemporain. On a un peu tendance à penser que les ethnologues sont des gens qui vivent parmi les primitifs, très loin, dans des sociétés qui ont été épargnées par l'histoire. C'est en partie vrai. Nous sommes beaucoup ici à avoir eu le privilège de travailler et de vivre plusieurs années dans des sociétés qui avaient été relativement peu affectées par le monde moderne. C'est mon cas. J'ai travaillé quand la société où j'ai passé quelques années en Haute-Amazonie. Lorsque j'y suis arrivé, les premiers contacts pacifiques avec les Blancs remontaient à seulement quelques années auparavant. Mais ça ne nous empêche pas aussi de nous intéresser, quelquefois dans un même mouvement, au monde le plus contemporain. Donc nous avons ici des gens qui travaillent sur... Il y a une grosse enquête qui a été menée, par exemple, sur la prostitution à Paris. Et les ethnologues, vous savez, l'ethnologie a ce mérite que, par rapport à ce qui a longtemps été le cas en sociologie, par exemple, les ethnologues travaillent par un contact direct avec les gens. Donc ils s'informent et ils arrivent à les faire parler, si vous voulez, et donc à obtenir des informations qualitatives qui, quelquefois, sont beaucoup plus éclairantes que des informations quantitatives telles qu'on peut les traiter de manière statistique. On s'intéresse aussi, bien évidemment, ici, à tout ce qui concerne les nouvelles techniques de reproduction. C'est un très vaste ensemble avec les effets que ces nouvelles techniques de reproduction ont sur les conceptions de la personne, sur les conceptions de la parentalité. Par exemple, au moment du clonage de Dolly, j'ai écrit un article sur les conséquences du point de vue théorique que le clonage reproductif des humains pourrait entraîner du point de vue de la théorie de la parenté. Vous voyez, bon. Donc on est vraiment en prise directe avec le présent, sans compter qu'on est aussi en prise directe avec le présent lorsque nous étudions la façon dont les sociétés, disons, minoritaires un peu partout dans le monde sont confrontés à l'heure actuelle avec la construction, la reconstruction de leur identité dans un monde globalisé. Et ce sont donc des situations qui sont souvent difficiles et qui aboutissent à des processus qu'on appelle d'ethnogénèse, c'est-à-dire, enfin, ce sont des gens qui sont obligés de se refabriquer une identité dans un monde nouveau, dans un monde changeant. Et ce sont des phénomènes extrêmement intéressants, complexes, que nous étudions aussi au laboratoire. Donc il n'y a pas d'objet, en quelque sorte, qui soit étranger à ce qui nous intéresse ici, même si nous maintenons ici, disons, les grands problèmes classiques de l'étude de la discipline.
Revenons à Claude Lévi-Strauss. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner, peut-être nous dire deux mots sur la carrière de l'éminent Lévi-Strauss, si on devait retenir deux choses?
Écoutez, d'abord, il y a quelque chose qui est peut-être caractéristique chez lui. Je le range dans le lot commun pour ça, puisqu'on remonte au tout début, qui est caractéristique d'une certaine façon qu'on a en France de faire de l'anthropologie. C'est un agrégé de philosophie. Et la plupart beaucoup en tout cas des anthropologues français, et bien avant lui d'ailleurs, peut-être le fondateur, les deux fondateurs, si on peut dire, de l'anthropologie française moderne, qui sont Durkheim et son neveu Marcel Mauss, c'était tous les deux des professeurs de philosophie, et ça n'a cessé de continuer. Nous sommes presque tous passés, en somme, par cette formation-là. Ça veut dire quoi ?
Je rappelle juste que vous avez réalisé donc une thèse sous Lévi-Strauss et vous êtes un des derniers à l'avoir réalisée sous Lévi-Strauss, n'est-ce pas ?
Je crois même que je suis le dernier à avoir fait une thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Donc nous sommes beaucoup à être passés par là et ça veut dire que la philosophie, ce n'est pas simplement une technique, c'est une manière se poser, ou plus exactement la manière dont les anthropologues ayant subi connu une formation philosophique se pose des problèmes, a pour effet qu'ils abordent des questions qui ne sont pas nécessairement celles que des gens qui ont une formation, soit très classiquement ethnographique, comme ça peut être ailleurs dans d'autres pays, soit plutôt liées à la sociologie ou à l'économie ou à l'histoire, se posent. Et donc, l'anthropologie française a cette caractéristique finalement, elle interroge les grands problèmes de la condition humaine, ce que la philosophie classiquement examine, mais au lieu de les interroger dans l'abstrait par des expériences de pensée ou à l'intérieur de l'histoire de la philosophie occidentale, elle se pose ces problèmes à partir des matériaux que des civilisations extrêmement diverses lui offrent et que, évidemment, elle recueille elle-même. Donc il y a ce premier aspect qui est un aspect important, c'est un philosophe. Qu'est-ce qui caractérise, en deux mots, c'est très difficile, à définir. Alors, il y a d'abord une méthode. Il y a une méthode qui est l'anthropologie structurale, ce qu'on a appelé l'anthropologie structurale, qui finalement est quelque chose assez simple à définir. Lévi-Strauss a souvent insisté sur le rôle qu'a joué le modèle linguistique dans la façon dont il avait construit sa méthode. Et c'est un modèle linguistique très particulier, c'est celui de la phonologie. La phonologie, donc, c'est l'étude des phonèmes, c'est donc l'étude des sons du langage, qui, à la suite des grands phonologues, en particulier comme Trubetskoy et Jacobson, a été menée à bien en faisant ressortir les écarts contrastifs qu'avaient les sons du langage dans une langue. Et il s'est dit, Lévi-Strauss, on peut utiliser en fait cette méthode de la même façon pour essayer de résoudre des problèmes en anthropologie. D'une certaine façon, le caractère distinctif d'un phénomène va devenir beaucoup plus marqué si jamais on appuie en quelque sorte le contraste avec un autre phénomène qui en apparence est proche, mais qui en réalité se distingue par un trait particulier. Voilà. Donc c'est une chose très simple, c'est-à-dire mettre l'accent sur les différences plutôt que sur les ressemblances. Lorsqu'on met l'accent sur les ressemblances, on finit par trouver que tout se ressemble finalement. Plus on remonte en généralité, plus les choses se ressemblent. Et on a relativement peu de moyens de comprendre tout simplement l'infinie diversité du monde. Si on met l'accent sur les différences, à ce moment-là, on peut essayer de construire ces différences en système. C'est-à-dire on peut essayer de comprendre comment les choses vont différer les unes des autres de manière systématique, pas au hasard, mais de manière systématique. Et c'est cette façon de différer de manière systématique qui, finalement, est mise en évidence par l'analyse structurale. Alors, Claude Lévi-Strauss a commencé par appliquer ça à des questions de parenté. C'était tout à fait révolutionnaire en France. Les gens savaient très peu de quoi il s'agissait. Les pionniers en la matière étaient les Anglais, d'une part, et les Américains d'autre part. Et dans ce grand livre, dans ce monument qu'est la thèse de doctorat de Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss a fait cette révolution qu'au lieu de s'intéresser, comme on le faisait lorsqu'on étudiait les systèmes de parenté auparavant, à classer en quelque sorte les systèmes de filiation, c'est-à-dire les systèmes par lesquels les gens considèrent qu'ils appartiennent à des groupes en fonction de ce qu'ils obtiennent un statut de par leur père ou de par leur mère. Il s'est dit, intéressons-nous à la façon dont les gens se marient, c'est-à-dire la manière dont des conjoints vont être prescrits ou proscrit selon les systèmes. Et c'est là qu'il a effectivement fait accomplir un bond à la discipline en mettant en place en quelque sorte les différents systèmes d'alliance de mariage que l'on connaît à la surface de la Terre. Deuxième domaine dans lequel il a appliqué l'ethnologie structurale, c'est évidemment l'analyse des mythes, disons plus généralement des classifications populaires, mais et des mythes, dans lequel il a traité les éléments du mythe, non pas comme on le faisait auparavant, comme le faisaient les mythologues, de façon linéaire, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'une histoire, mais en prenant des paquets d'événements et de personnages dans les mythes pour montrer les contrastes qu'il y avait entre ces paquets d'événements et de personnages. Et ça faisait apparaître dans les mythes des choses qui, à première vue, n'y étaient pas présentes et que l'analyse permettait de révéler et qui permettaient de comprendre beaucoup aussi à propos des sociétés qui avaient produit ces mythes, des histoires qui en apparence étaient bizarres, déraisonnables, cocasses, mais sans grand intérêt, tout d'un coup prenaient un relief du fait qu'on s'apercevait qu'il y avait une opposition entre les parents par alliance et les parents consanguins très forte qui traversait le mythe et qui faisait écho à une autre opposition qu'on trouvait dans des mythes de sociétés voisines et dont on pouvait penser qu'elles constituaient tout un système, peut-être conscient, peut-être inconscient, on ne sait pas. Bon, Lévi-Strauss pensait plutôt pour une sorte d'inconscient général s'exprimant dans les mythes, mais qui en tout cas permettait de comprendre beaucoup mieux, à des échelles régionales en particulier, comment s'articuler des systèmes de pensée. Alors, ce qui est frappant en deuxième lieu aussi, c'est l'ampleur de la pensée. Claude Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui non seulement a abordé la plupart des domaines les plus complexes de l'anthropologie contemporaine, notamment par l'étude des systèmes de parenté et puis par l'étude des mythes et des classifications, mais qui est aussi, on le sait, écrit avec une très grande profondeur sur la musique, sur l'art, sur la littérature. Et il l'a fait en prenant ce qu'il appelait lui-même le regard éloigné, c'est-à-dire en essayant d'aborder ces domaines, non pas tels que notre éducation nous a, dans la culture occidentale, nous a conduit à les voir, mais tel que une sorte de sujet peut-être un peu abstrait et ayant beaucoup voyagé, pourrait les voir du très loin. Je dirais presque comme si un Indien d'Amazonie pouvait, s'il avait la capacité de le faire, traiter d'une sonate de Bach ou d'un tableau de Poussin. Donc c'est cette capacité, en quelque sorte, d'éloignement maximal qui rend son travail tout à fait étonnant. Et évidemment, il n'y a pas que de l'éloignement, il y a aussi une immense culture et une immense intelligence dans la manière de traiter ces matériaux. Mais il n'y a pas de matériaux aussi humbles qui n'intéresse pas et qui ne soit pas en mesure de connecter avec d'autres choses. Et c'est aussi cette capacité de mettre en réseau, en résonance, des choses extrêmement différentes qu'on voit très bien dans son analyse des mythes. Il s'intéresse au miel, il s'intéresse à la crasse, il s'intéresse à... Tout est bon, en quelque sorte, pour tisser des réseaux de correspondance et d'opposition et de symétrie entre les éléments qu'il analyse dans les mythes. Et ça, c'est véritablement la marque d'un très très grand esprit.
Ce n'est pas évident de raconter le personnage en deux mots, effectivement. Au début de l'année 2005, Claude Lévi-Strauss déclare, lors d'une de ses rares apparitions à la télévision, « Ce que je constate, ce sont les ravages actuels. C'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales. Et le fait que, du fait même de sa densité actuelle, l'espèce vivante vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne, et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence, ce n'est pas un monde que j'aime. » Est-ce que vous, monsieur Descola, vous aimez ce monde dans lequel nous vivons ?
Je dois dire que je ne suis pas loin de partager l'avis de Claude Lévi-Strauss. Et je partage en tout cas une remarque qu'il a faite il y a longtemps, lorsqu'il disait que... Vous savez, c'est une remarque qu'il a reprise de Gramsci, lorsque Gramsci disait, bon, pour la lucidité conduit au pessimisme, Et en même temps, il faut l'optimisme est le produit du courage et de la volonté. On peut comprendre qu'un homme très âgé comme lui ait vu progressivement le pessimisme gagner sur l'optimisme du fait que certains des combats qu'il a menés n'ont pas toujours été couronnés de succès et que peut-être un certain découragement l'a saisi. Et il est certain que l'état qu'il décrit est tout à fait juste et il a été précurseur en le décrivant. Maintenant, nos contemporains s'aperçoivent effectivement que notre monde est mortel, terriblement mortel, et que on peut peut-être envisager un moment où l'humanité disparaîtra après avoir saccagé le monde où elle vivait. Je pense que de plus en plus de gens en ont conscience maintenant. Simplement, il le dit sur un ton élégiaque ou pessimiste qui attire particulièrement l'attention.
Vous avez plutôt bien connu M. Lévi-Strauss. Retenez-vous peut-être une histoire personnelle qu'il vous aurait racontée?
C'est un homme qui se livre peu et je pense que tout le monde vous le dira. Ce qui m'a frappé, c'est que dans nos conversations, ce qu'il aimait par-dessus tout à évoquer, c'était le moment qui, pour lui, avait été sans doute très heureux de cette découverte des Indiens du Brésil et du rapport qu'ils entretenaient avec la nature. C'est des petites anecdotes de terrain, comme on dit, qui, quelquefois, un animal apprivoisé pour lequel il avait beaucoup d'affection. Un petit singe. Il avait particulièrement frappé. C'était des petites touches d'humanité comme ça qui filtraient en quelque sorte de cette découverte d'une façon très différente de vivre la condition humaine qu'il avait rencontrée au Brésil central.
Quel élément de la carrière de ce monsieur vous aurait guidé dans votre parcours ?
Oh, carrière, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin, disons que... Je suis d'une génération, je suis, comme je l'ai dit, peut-être l'un de ses derniers étudiants, peut-être même son dernier étudiant. J'ai découvert l'anthropologie comme beaucoup, j'imagine. Je devais avoir 17 ans en lisant Triste Tropique. C'était un éblouissement pas simplement ce qu'il écrivait des Indiens, bien sûr ce qu'il écrivait des Indiens, mais aussi une certaine façon lucide et un peu désenchanté, c'est vrai, très belle aussi, de parler du monde un peu à la Montaigne. Montaigne est l'un des personnages, Montaigne, Rousseau, Chateaubriand, c'est trois figures qui ont joué un rôle très important pour lui, mais là on sentait surtout l'influence de Montaigne. Et on se dit, si faire de l'anthropologie, devenir un homme comme cela, il faut s'y précipiter. C'est peut-être ça qui m'a conduit à faire de l'anthropologie, sans prendre garde qu'il fallait peut-être être un homme comme cela pour devenir ce que Lévi-Strauss est devenu par après.
Monsieur Descola, pouvons-nous revenir pour terminer sur l'héritage? Comment voyez-vous l'héritage de Claude Lévi-Strauss?
Comme je vous disais tout à l'heure, Lévi-Strauss ne se voit pas comme un chef d'école, hein, surtout pas. Il n'aspirait pas à avoir de disciples au sens classique du terme. Le laboratoire d'anthropologie sociale, par exemple, était une collection, et continue à l'être, enfin, à l'époque où il le dirigeait, d'individualités extrêmement différentes, quelquefois en conflit les unes avec les autres, d'ailleurs. Il n'a jamais cherché à imposer une orthodoxie quelconque. C'est rien n'est plus étranger à sa manière de voir les choses. Alors, s'il y a un héritage en anthropologie, c'est précisément peut-être la combinaison d'une aspiration à rendre raison des phénomènes sociaux et culturels, quelque chose dont on a pu douter à un moment. Hein, depuis une vingtaine d'années, en France et aux États-Unis, en Angleterre aussi, on se dit finalement, on n'arrivera jamais à rendre raison de la complexité du monde humain. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est le décrire le mieux possible ou décrire les conditions de l'impossibilité de le décrire. Je crois que Lévi-Strauss nous a donné confiance pour poursuivre ce travail d'essayer de rendre raison. Ça, c'est très important. L'autre héritage, c'est, je crois, très caractéristique de son œuvre, c'est une union admirable entre le sensible et l'intelligible, entre précisément la recherche de régularité, de loi, d'éléments d'universalité dans la manière dont les hommes sont présents au monde, d'un côté, et puis de l'autre, la conscience que cette recherche de loi et de régularité, elle passe aussi par une infinie sensibilité aux choses et à la manière dont elles s'expriment. Et ça, son œuvre en est un extraordinaire témoignage, parce que je crois aussi qu'on peut dire, je ne sais pas comment la postérité, on ne sait jamais comment elle va traiter les gens, mais je pense qu'il va certainement rester, bien évidemment, comme le grand anthropologue du XXe siècle, je crois, pas simplement en France, mais aussi probablement comme un très grand styliste, comme un très grand écrivain. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Évidemment, les deux sont très liés. Les deux sont très liés.
Merci beaucoup, Monsieur Descola, de nous avoir reçus au Collège de France. Je rappelle que vous dirigez le laboratoire d'anthropologie sociale fondé par Claude Lévi-Strauss. N'hésitez pas à réécouter cette émission ou les autres consacrées à Claude Lévi-Strauss sur canalacademy.com.